Aujourd'hui, pour la dernière émission de l'année, je vous propose de réécouter Réplique du samedi 15 février avec Jean-Christophe Bailly et Jacques De Witt autour du thème « La forme animale ». La semaine prochaine, pour débuter l'année 2015, Réplique aura pour sujet « La tragédie des bolcheviks ». Mes invités seront Olivier Rollin et Nicolas Werth. Réplique, la forme animale, avec Jean-Christophe Bailly et Jacques De Witt. Tocqueville a magistralement montré pourquoi et comment la pitié dans les siècles démocratiques traversait les murs et transcendait toutes les frontières symboliques ou géographiques qui fractionnent le monde humain. Et voici que l'affect par excellence de la démocratie franchit aujourd'hui la barrière des espèces. Un homme vient d'être condamné à 1 an de prison ferme pour avoir torturé son chat et posté sur Internet le film de cette prouesse. La décision du zoo de Copenhague d'euthanasier un girafon en parfaite santé, mais dont il ne savait que faire, et de procéder à son autopsie en public avant de livrer le cadavre au lion, cette décision a révulsé l'opinion mondiale. Nous sommes encore loin de faire de l'histoire naturelle une branche de la politique et de dire avec Michelet que les bêtes ont leur place au grand banquet civique, mais on doit, me semble-t-il, se réjouir de cet élargissement de la sensibilité et espérer qu'il débouchera un jour sur une réforme de l'élevage industriel, cette injustifiable violence faite de la naissance à la mort aux animaux que nous consommons. Il serait dommage, cependant, de laisser la compassion monopoliser notre relation au mystérieux silence des bêtes. Il y a aussi la surprise, l'émerveillement, la curiosité insatiable que suscite leur rencontre, aussi fugitive soit-elle. C'est donc de toutes les nuances de cet étonnement et de sa signification que nous allons parler aujourd'hui avec Jean-Christophe Bailly, qui, 6 ans après le versant animal, publie Le parti pris des animaux, et avec Jacques De Witt, qui signe la préface du grand livre d'Adolphe Portmann, La forme animale. Un mot d'abord sur cette figure méconnue dont les travaux ont captivé, entre autres, Hannah Arendt et Maurice Merleau-Ponty. Qui était Adolphe Portmann, Jacques De Witt ?
Portmann était, pour le dire tout de suite, un grand savant. Enfin, c'est un mot qu'on n'emploie plus beaucoup. On dit aujourd'hui scientifique. Je crois que le mot, dans ce qu'il a de vieillot, a toute sa raison d'être. Grand savant, professeur de zoologie à l'université de Bâle, paraît-il grand professeur, enseignant la morphologie comparée, mais aussi savant, d'une certaine façon marginale, indépendant. Artiste, une grande sensibilité artistique qui fait qu'il était lui-même dessinateur, qu'on a gardé des travaux, des esquisses. Et précisément parce que la fascination et l'objet qu'il a retenu dans ce champ qu'il a exploré, c'est la forme animale. Donc forme en allemand, c'est Gestalt, qui est un peu plus que ce qu'on entend par forme. C'est l'allure, la manière d'être de l'animal. Donc l'animal tel qu'il existe dans le visible, tel que nous le voyons, tel que nous le découvrons, et donc avec sa beauté, sensibilité à la beauté de l'animal, mais aussi ce qu'elle peut révéler d'une vie intérieure, de quelque chose de... Et donc pas seulement la beauté pour nous, de dire voilà, c'est esthétiquement, etc., mais se dire et ça c'est la spécificité et l'audace de Portman, c'est de se dire il y a quelque chose comme un besoin des êtres vivants de se donner à voir, d'apparaître. Voilà, donc ça c'est pour le dire très de manière très résumée.
Il a vécu exactement à quelle époque ?
Alors il est donc quelqu'un qui est tout à fait du 20e siècle. Je crois qu'il doit être né en peut-être 1897 et mort en 82. Donc voilà, c'est quelqu'un dont l'œuvre publiée, notamment ici la première édition de La forme animale 1948, dont c'est quelqu'un qui a été actif, disons, dans les années 40, 50, 60, même 70. Alors, avec aussi, donc j'ai déjà évoqué son savoir scientifique, sa sensibilité artistique.
Alors c'est intéressant.
Il y a aussi une dimension philosophique.
Oui, alors mais justement, restons une seconde. Vous dites sensibilité artistique, savoir scientifique. D'une certaine manière, il ne s'en tient pas à l'approche purement galiléenne, disant que la nature est écrite en langage mathématique. Et cette sensibilité artistique, il l'a fait servir à l'exploration du savant qu'il est et qui est conduit lui-même à réhabiliter des apparences et à montrer que tout cela, tout ce que nous voyons, n'est pas de l'ordre de l'illusion subjective.
Tout à fait. Et n'est pas de l'ordre de... Enfin, j'ai oublié le concept exact donc du secondaire. Enfin, voilà. Donc, en effet, ça, c'est tellement évident pour moi que j'oublie de le rappeler. C'est un de ceux qui remettent en question les grands partages fondateurs de la science moderne, pour le dire comme ça, ou de la modernité en général. Et donc, à travers alors aussi une démarche très descriptive dans le livre que j'ai retraduit, il y a constamment des interrogations philosophiques. Enfin, pourquoi ? Et donc, il récuse et même cherche à démontrer, pour autant qu'on puisse démontrer ce genre de choses. En tout cas, il développe une démarche argumentative conduisant à montrer que les tentatives d'explication de type fonctionnaliste, et notamment néo-darwiniennes, manquent l'essentiel, enfin, peuvent éventuellement... expliquer que la forme animale soit mise au service de certaines, mais ne peuvent pas en tout cas expliquer sa genèse, le fait qu'elle soit là, qu'elle se montre à nous. Et alors, en effet, là vous l'avez déjà indiqué, une des raisons de la beauté, parce que c'est vraiment une belle œuvre, c'est écrit dans je crois, une belle prose que j'ai essayé de restituer, il y a ce thème de la rencontre. Donc Portman n'est pas un scientifique qui s'imaginerait qu'il est dans une relation de pure objectivité, n'étant en aucune manière impliqué par son objet. Non, au contraire, sa démarche scientifique, disons, prend son point de départ dans une rencontre avec l'animal, les animaux, dans ce qu'ils ont d'étrange, de différent de nous, et dans lesquels nous pouvons, jusqu'à un certain point, reconnaître une part de notre humanité.
Bon. Oui, alors. Mais alors. Attendez. Oui. Je crois qu'on va s'arrêter là pour la première intervention. Donc, effectivement, vous dites, Portman ne veut pas s'en tenir à l'explication fonctionnaliste, c'est-à-dire que l'instinct de conservation, et je vous cite dans votre livre « La manifestation de soi », Jacques de Witte, ne peut pas être retenu comme étant la fin ultime poursuivie par les organismes individuels ou la vie en général. Donc, il y a une sorte d'apparition pour elle-même, ou d'apparence pour elle-même, voilà, chez Portman. Mais là, je me tourne vers vous, Jean-Christophe Bailly, parce que, en lisant la conclusion de La forme animale, j'ai retrouvé une thématique que vous développez aussi bien dans le versant animal que dans le parti pris des animaux. Je cite « Notre rencontre avec l'animal s'accompagne simultanément d'un sentiment puissant où est à l'œuvre quelque chose qui s'apparente à l'étonnement de l'enfant. Nous rencontrons les plantes et les animaux avec stupeur ou effroi, avec de la joie, mais aussi avec un respect sacré. Nous n'avons pas devant nous des êtres dont un jour, après-demain, dans des années ou dans des décennies, nous percerons à jour la manière d'être. Autour de nous existent des formes de vie grandes et petites dans lesquelles se sont réalisées d'autres possibilités du vivant qu'en nous, êtres humains. »
Jean-Christophe Bailly. Oui, c'est tout à fait remarquable, cette attitude.
de la part d'un scientifique, on peut regretter que ce ne soit pas plus répandu, bien que ça existe chez quand même quantité de scientifiques, même si la logique de leurs travaux les conduit à perdre de vue cet étonnement, et souvent à l'origine de leur vocation, disons, il est quand même là. Mais je suis particulièrement sensible dans l'œuvre de Portman, disons, forcément à ce primat de l'émotion même qu'il y a à l'existence de tant d'autres, à l'existence à la manifestation quotidienne, si on le voulait, de la différence, du distinct. Et que donc l'étonnement, en effet, que l'on a enfantin, c'est un peu au fond philosophiquement le pèlerin chérubinique, hein, la rose et sans pourquoi, et exactement la même chose, le paon, le thon, la souris, d'abord ils sont, avant d'être comme si ou comme ça ou comment ou pourquoi, etc. Et la violence de la manifestation d'existence dans toutes ses formes, y compris dans le fait qu'elle soit difficile à saisir, à attraper, c'est le premier rapport qu'on a avec les animaux.
Et chez vous aussi, c'est un étonnement enfantin ou c'est un étonnement plus tardif? Est-ce que ça vous accompagne depuis longtemps,
c'est un étonnement,
cette surprise, cette admiration?
Oui, bien sûr, enfant, oui. Mais j'en ai des souvenirs. J'étais un enfant de la ville, donc les visites aux zoos principalement et les séjours à la campagne. Mais ça fait longtemps que ça m'accompagne. Et puis j'ai renforcé ça en fréquentant le peintre Gilles Ayot.
On
communiquait beaucoup sur ce sujet.
Alors, et d'ailleurs, moi, j'ajouterais, je pense qu'on est tout à fait d'accord là-dessus, que évidemment, Portman parle d'un étonnement enfantin, mais ce genre d'étonnement, de stupeur, évidemment, se poursuit pendant toute une vie. Enfin, en tout cas, si on a gardé une sensibilité poétique, philosophique, donc c'est ce que j'appelle dans souvent la rencontre première. Et j'évoque par exemple dans un texte cet épisode de l'arrivée de la première girafe,
girafe
en France,
justement.
Qui animal étonnant, et donc et voilà, c'est un, je trouve, un épisode très remarquable. Mais
oui, c'est-à-dire, l'animal avait été, vous dites, capturé par les Arabes en 1826 au Soudan, nourri avec du lait de chamelle, amené jusqu'au Caire, et puis ensuite le voyage repris. Il est arrivé à Marseille sur un bateau, et de là, cet animal merveilleux a traversé la France. Et dans chaque village, dans chaque ville, la bête étrange déchaîna un tel enthousiasme qu'à plusieurs reprises, la police et la troupe durent maintenir l'ordre.
Et je peux me souvenir que le roi de France est venu rendre hommage en jetant des pétales de rose. Enfin, il me semble que dans l'épisode que je cite, il y a
cet aspect-là. 25 gendarmes surveillaient l'entrée solennelle de l'animal exotique à la ménagerie, où peu après l'arrivée mémorable, le roi vint en personne offrir à la girafe une poignée de pétales de rose, tandis que des pièces d'or étaient distribuées à ceux qui avaient été ses compagnons de voyage. Et vous dites, ce n'était pas la curiosité seule qui attirait la foule, mais plutôt le besoin sérieux d'admirer avec respect et une sorte de recueillement cette admirable bête.
Voilà.
Et maintenant, oui, donc aux eaux de Copenhague,
on a éliminé
un girafon, donc vous savez que faire.
Cela dit, l'affaire de Copenhague est particulièrement scandaleuse, mais on peut citer d'autres exemples. Par exemple, en France, le zoo de Douai-la-Fontaine, par exemple, a de magnifiques girafes, mais il travaille directement au repeuplement des girafes dans la boucle du Niger, avec une certaine efficacité. Donc l'attitude du zoo de Copenhague est très atypique de ce qui se passe dans le milieu de la conservation animale.
Et vous dites d'ailleurs que les zoos ont changé aujourd'hui, parce que maintenant, ils préservent des possibilités de retraite aux animaux, alors que dans les zoos classiques, ils étaient condamnés à la visibilité. Notre rencontre avec l'animal est toujours un peu frustrante, parce que nous ne voyons en fait que son sillage. Il n'apparaît que pour disparaître. Et finalement, cette possibilité-là, dans les zoos nouvelle manière, lui est offerte à nouveau.
Oui, on leur accorde le droit de se cacher, qui est quand même aussi d'être tranquille. Donc c'est quelque chose. Et par exemple, dans le jardin nouveau zoo de Vincennes, par exemple, il n'y aura pas d'éléphants. Pourquoi ? Parce que pour que des éléphants soient relativement, entre guillemets, chez eux, il faut 10 hectares. Et comme ils ne les auront pas, il n'y aura pas d'éléphants.
et ainsi de suite. Par contre, c'est quand même très intéressant de voir cette dynamique se développer.
Et j'en profite, si on parle de la girafe, de dire que j'ai lu avec beaucoup d'émotion donc certains passages de votre petit livre, Le versant animal, où vous évoquez un voyage en Afrique et donc, disons, avec quelque chose de tendu et de nonchalant à la fois, sorte d'harmonique parfaite à la foulée de la girafe qui va l'amble. Et oui. Donc là, je me permets de peu apporter un complément par rapport à Portman, qui reste malgré tout un visuel, qui privilégie la forme visuelle. Dans ce que j'ai lu de vos descriptions, de ces fragments de poèmes, vous essayez de restituer le rythme, quelque chose comme... Oui. Le rythme intérieur qui appartient aussi à la spécificité de chaque être vivant.
Ce qui est très frappant quand on voit les girafes en nature, disons, chez elles, dans les réserves, c'est la sensation de ralenti. C'est-à-dire, on a l'impression qu'elles ne tournent pas dans le même film que nous. Mmh. Et qu'il y a quelque chose d'absolument magnifique dans cette lenteur, cette démarche, oui. etc. Mais en fait, chaque espèce animale tourne un film différent d'une certaine manière. Et ce qu'on pourrait appeler la nature ou l'ensemble de tous les biotopes réunis, ça serait la totalité de ces films. Hein. Et ce qui est très curieux, c'est que nous, évidemment, on ne voit que le film qu'on est capable de tourner, on ne voit que le film humain, mais il me semble que ça ne demande pas un énorme effort spirituel d'essayer de s'ouvrir à ces autres manières de tourner le film du monde.
Mais là, je m'étonne de cette remarque que vous venez de faire, disant nous ne voyons que le film humain, donc nous serions enfermés dans un anthropocentrisme. Enfin, je ne sais pas, j'interprète peut-être, j'exagère peut-être. Moi, il me semble que non. Peut-être que ça existe aussi, mais que l'être humain ou certains êtres humains sont capables de, précisément, de s'ouvrir, d'essayer de comprendre de l'intérieur les poètes et des gens comme Portman. Donc je ne dirais pas que l'espèce humaine est condamnée
à... de toute manière, déjà aussi le fait que nous sommes l'espèce à langage, ça spécifie notre tournage, si je puis dire, mais on n'est pas enfermé. Et si je puis me permettre, parce qu'elle me hante depuis quelques mois, je l'ai retrouvée, une citation de Novalis, qui est un auteur que je fréquente régulièrement, je la trouve absolument superbe et qui correspond tout à fait au thème de ce dont nous avons à parler. Il dit cette chose: « La nature est cette communauté merveilleuse où nous introduit notre corps ». Je trouve absolument magnifique cette phrase. Et j'ai vérifié, dans l'allemand, il parle bien de Gemeinschaft, de communauté, communauté merveilleuse. Donc, ça veut dire l'idée de la particularité humaine ou de la particularité de tel ou tel animal, elle est d'une certaine manière incorporée dans cette communauté, mais qui est une communauté ouverte, une communauté où personne ne serait en droit de dire nous.
Alors, sur cette question de l'ouvert, je voudrais que nous réfléchissions un peu. Parce que dans vos deux livres, Jean-Christophe Bailly, vous allez jusqu'à renverser la perspective traditionnelle qui veut au fond que l'homme ait beaucoup de possibilités et que l'animal souffre d'un certain nombre de manques. Au fond, vous parlez d'une plénitude presque des animaux, nos maîtres silencieux, c'est je crois le titre de vos chapitres, et vous référez à plusieurs reprises à un poème magnifique et énigmatique de Rilke, la 8e élégie de Duino, où il développe ce thème de l'ouvert, justement, et cet ouvert qui, en fait, il réserve aux animaux ce que lui reprochera, d'ailleurs, avec force, Heidegger. Mais alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce que ça signifie? Rilke dit ceci dans une lettre citée par Élisabeth de Fontenay dans Le silence des bêtes. « Vous devez concevoir l'idée de l'ouvert que j'ai essayé de proposer dans cette élégie, de telle sorte que le degré de conscience de l'animal, place celui-ci dans le monde sans qu'il ait besoin de constamment le poser vis-à-vis de lui. L'animal est dans le monde, nous autres nous nous tenons devant lui du fait de la singulière tournure et élévation qu'a prise notre conscience. Jean-Christophe Bailly.
Oui, cette tournure de conscience, c'est exactement ce dont j'essayais de parler avant en parlant de notre manière de participer au monde avec le langage, avec le merveilleux outil et en même temps presque on pourrait dire l'obstacle. Qu'est voilà. Le langage, d'une certaine manière. Et il y a l'idée chez Rilke, qui est évidemment discutable, mais et qui ne pouvait que choquer Heidegger, il y a l'idée qu'en deçà et au-delà du langage, ce n'est pas seulement le silence, ce n'est pas quelque chose qui est en attente de la parole humaine, c'est quelque chose qui réserve le sens dans une intensité que le langage mime, mais n'atteint jamais au fond. Et que les animaux, on ne va pas leur prêter la pensée, on ne va pas leur prêter un meilleur langage, il ne s'agit absolument pas de ça, mais simplement, ils habitent, disons, avec inquiétude d'ailleurs, ils habitent avec inquiétude dans cette zone sans langage. Et cette zone sans langage, elle est pour nous forcément extraordinaire, si on l'observe, et elle est pleine évidemment de signes, ou pleine de ce qu'on appelle la signifiance. Ce qui est avant le sens formé.
Jacques De Witte, est-ce que vous adhérez à cette description ?
Parlons un peu de Rilke d'une manière générale, donc, qui est évidemment quelqu'un que j'admire énormément. Et je me rends compte que j'ai de la peine à comprendre profondément les élégies. Il a eu, je crois que c'était en 1922, une époque créatrice extraordinaire. Il a écrit à la fois les élégies, les sonnets à Orphée. Moi, je suis proche plutôt des sonnets à Orphée. Et du Rilke, des nouveaux poèmes. Un Rilke descriptif, un Rilke qui, précisément, a écrit un poème sur la panthère, sur des lieux...
Que vous avez traduit, d'ailleurs.
Que j'ai traduit, voilà. Et où il essaye, pour autant qu'on puisse évidemment s'imaginer entrer dans ce monde étranger, essayer de restituer ce que lui a semblé manifester la panthère qui tourne dans la cage au jardin des plantes.
Mais c'est le thème de l'ouvert que vous n'arrivez pas...
Je ne comprends pas très bien exactement l'enjeu. Et puis aussi, ça rejoint des considérations plus générales, le rapport entre le langage et ce qui serait tout à fait extérieur au langage. Nous sommes des êtres de langage. Et pas seulement dans nos tentatives réussies ou non réussies de capter la sensibilité animale. Il y a toujours à la fois quelque chose qui échappe à la parole et en même temps nous parlons et nous disons, nous portons au langage une part de notre expérience. Donc je serais réticent, disons que vis-à-vis de cette sorte de coupure ou
Non, c'est pas
le langage. Qu'est-ce que c'est que cette zone au-delà du langage?
Alors voilà. Là, je voudrais peut-être poursuivre en vous posant une question précise. Alors d'abord, il y a quand même des choses dans la neuvième élégie, notamment auxquelles on peut vraiment se référer et qui peuvent même illustrer notre conversation. Mais parce qu'être ici, c'est beaucoup, et que tout semble-t-il, tout ce qui est d'ici, le périssable nous réclame et a besoin de nous. Mais sur ce qui est justement de l'ouvert, alors là, je voudrais vous opposer, Jean-Christophe Bailly, deux citations, et là, je retourne un peu à cette compassion dont je parlais au début. D'abord, Horkheimer et Adorno. Pour échapper au vide lancinant de l'existence, il faut une capacité de résistance à laquelle le langage est indispensable. Même l'animal le plus fort est infiniment faible. La thèse de Schopenhauer, selon laquelle la vie oscille entre la douleur et l'ennui, entre de brefs instants où l'instinct est satisfait et un désir ardent qui ne connaît pas de fin, s'applique bien à l'animal, auquel aucune connaissance ne permet d'arrêter le destin.
Et qu'en savent-ils ?
Oui, qu'en savent-ils ? Alors, je vous citerai Nietzsche dans le même sens, au temps où il se réclamait de Schopenhauer, dans les considérations inactuelles. Il dit que, de tout temps, les hommes profonds ont eu pitié des animaux. C'est une lourde peine de vivre ainsi en animal, soumis à la faim et au désir de ne pas même parvenir à la moindre conscience sur cette vie. Comment imaginer destin plus lourd que celui de la bête de proie, pourchassée dans le désert par le plus rongeur des tourments, rarement satisfaite et ne l'étant jamais qu'avec une satisfaction qui se fait douleur, soit dans la lutte sanglante avec d'autres animaux, soit dans la voracité répugnante et le trop-plein de la société. Tenir à la vie avec cet aveuglement, cette folie, y tenir sans autre ambition, eh bien c'est cela, être animal. Quelque chose, dit Élisabeth de Fontenay, de l'horreur d'un conatus aveugle, de l'hébétude du besoin. Voilà, un animal qui tournerait dans la vie et qui précisément, parce que dépourvu de logos, pourrait inspirer la pitié.
Oui. Deux choses, d'abord sur l'ouvert et le langage. On voit bien que, moi je crois que je le signale à plusieurs reprises, je prends soin de ne jamais écrire l'ouvert avec un grand O, avec une majuscule, parce qu'à ce moment-là on entre dans une solennité, et on voit bien par ce problème-là le hiatus qu'il y a dans le langage. Évidemment que le langage nomme, mais dès lors qu'il nomme, il ne peut pas serrer tout ce qu'il a voulu serrer dans le nom. Quelque chose échappe, et l'ouvert c'est cet échappé, et dans cet échappé il y a la possibilité du langage qui est la forme du frayage humain, si on pouvait dire les choses comme ça, mais il y a quantité d'autres frayages qui sont possibles. Et justement, ces autres frayages, celui du vol de l'oiseau, celui de la façon dont un serpent se déplace, etc., je suis toujours extrêmement choqué quand on les associe à ce que Heidegger a résumé sous la forme du pauvre en monde. Oh oui. Et il est de fait que, ici, chez Adorno et Horkheimer, ou chez Nietzsche, pourquoi pas, il y a déjà les prémices de cette idée-là, qui sont pauvres en monde. Or, la richesse même du monde, pour nous, elle nous est présentée constamment par tous ces sillages prétendument pauvres, dont nous ne savons absolument rien. Et le fait qu'il n'y ait pas connaissance, le fait qu'il n'y ait pas langage, le fait qu'il n'y ait pas ce que nous pouvons reconnaître comme notre forme d'appropriation au monde, c'est justement cela qu'il faut suivre. C'est cela qu'il faut voir, c'est-à-dire que peut-être qu'on peut habiter le monde autrement que nous, et c'est ce qu'ils font. Et toujours cette idée de c'est la notion même de la valeur humaine antéposée, quoi, qui moi me choque extrêmement. Devant une souris, mon premier réflexe n'est pas de lui dire « Oh, ma pauvre petite souris !» Ça va être éventuellement de lui donner du gruyère. Je ne sais pas. Et ce n'est pas de la compassion. C'est quelque chose de tout à fait différent. Où se retrouve et se reproduit et se relance, ricoche cet étonnement devant tant de grâce.
Oui, je suis d'accord fondamentalement avec ce que vous venez de dire. La fameuse phrase, formule de Heidegger, « pauvre en monde », enfin, je trouve que, excusez-moi, mais je trouve ça surtout « pauvre en pensée » de la part de Heidegger. Mm. En tout cas, ça réitère une démarche classique consistant effectivement à placer d'abord l'homme et tout. Et enfin, c'est une démarche consistant à apercevoir la vie animale de manière privative, donc ce qu'ils n'ont pas, et bon, nous constatons, au lieu d'avoir une autre démarche qui est d'essayer de la comprendre de l'intérieur et dans sa singularité, là-dessus je suis entièrement d'accord. Je pense que aussi quelqu'un qui avait bien dit ça, c'était Merleau-Ponty dans ses causeries, dans ses cours. Alors ce thème de la pitié, qui apparaît manifestement chez Adorno, c'est Schopenhauer, et je pense qu'aujourd'hui, dans toute une série de travaux et dans une sensibilité contemporaine, une des raisons de cette compassion pour l'animal, il y a cette expérience, ce schéma premier de la pitié, de la [S2] Oui. [S1] Pitié pour une souffrance. Bon, alors, moi, j'en viens tout de même. Les animaux ne sont pas que des êtres souffrants. On peut percevoir la fierté, la joie dans ce dossier que j'avais constitué et qui va être repris dans Prétantenne. J'avais demandé à mon ami Simon Leys de faire une traduction de ce texte de Chuang Tzu, Le bonheur ou la joie des poissons.
Donc, avec une conversation extrêmement intéressante, d'ailleurs, entre deux lettrés chinois. Qu'est-ce qui te permet de supposer que les animaux, que ces petits poissons puissent avoir une joie, etc. Avec tout le reproche de ce moment-là, de l'anthropomorphisme, d'une projection indue. Donc, enfin, pour en revenir à ça, je pense que je suis hostile à ce que j'appellerais le pathocentrisme.
Voilà.
Qui domine toute une série de travaux et domine la sensibilité contemporaine. Il me semble que, à cet égard, mais et à bien d'autres, Portman est, j'oserais même dire, presque l'anti-Schopenhauer. Il y a une toute autre pensée, avec précisément le parti pris de l'apparaître, des apparences, alors que nous savons bien que chez Schopenhauer, c'est au fond le contraire. Enfin, donc, et qu'il n'y a pas quelque chose comme une volonté, un conatus, qui serait alors aussi ce que nous avons en commun avec l'animal, donc une souffrance, la Weltschmerz universelle qui serait commune entre les animaux et nous, qui nous permettrait... Non. Moi, je crois que le chapitre de conclusion de la forme animale dont vous avez cité un passage montre qu'il y a chez Portman l'exigence de comprendre, d'avoir quelque chose comme une empathie. Mais même le mot empathie fait problème. Mais c'est par une autre voie et sur d'autres bases métaphysique que ce primat de la souffrance et de la pitié.
Voilà. Alors là, je citerai Merleau-Ponty, commentant Portman dans son très beau séminaire sur la nature. Il faut critiquer l'assimilation de la notion de vie à la notion de poursuite d'une utilité. C'est ce que vous disiez au début, Jacques Devitt, ou d'un propos intentionnel. La forme de l'animal n'est pas la manifestation d'une finalité, mais plutôt d'une valeur existentielle de manifestation, de présentation. Ce que montre l'animal, ce n'est pas une utilité. Son apparence manifeste plutôt quelque chose qui ressemble à notre vie onirique.
Et là, c'est le passage du cours de Merleau-Ponty qui commente Portman. Enfin, il paraphrase et il l'a évidemment très bien compris.
Voilà, alors, vie onirique, ça me fait penser à Chesterton que vous citez et notamment cette phrase extraordinaire. S'amuser à constater, une chose est de raconter une entrevue avec une créature qui n'existe pas, une gorgone ou un griffon. Une autre chose est de découvrir que le rhinocéros existe et de s'amuser à constater qu'il ressemble à un animal qui n'existerait pas. Je trouve cette phrase absolument, absolument sublime. Et dans le sens de cette joie dont parle Simon Less, je voudrais citer un très beau passage du Parti pris des animaux, votre livre Jean-Christophe Bailly. C'était l'été, la nuit, sur un petit port de Bretagne à marée basse. Nous descendons loin sur la jetée, la mer ou ce qu'il en reste, car ce sont des régions de très fortes marées avec des écarts spectaculaires entre les niveaux. La mer est non seulement basse, mais aussi exceptionnellement calme. Et puis, tout d'un coup, effraction d'un événement lumineux et sonore, ce sont de très petits poissons qui sautent ici et là dans un périmètre pourtant circonscrit, y formant le dessin recommencé de légères trajectoires argentées, griffant à peine l'étendue, mais en tous sens. L'accompagnement sonore est celui de ces plongeons filants, rapides, qui éclaboussent à peine. Au bout de quelques minutes, tout s'éclipse, il n'y a plus rien. Ici, rien, aucun contact, seulement le spectacle lointain d'une agitation nocturne, éphémère, un passage d'être qui ne configure pour nous aucune espèce de familiarité ou de connivence, même furtive. Et pourtant, ce que l'on éprouve alors, c'est une joie, mais elle est difficile à décrire. Donc, ce n'est pas forcément la joie de ces poissons volants, mais peut-être si, et en tout cas, c'est la vôtre.
Oui, non, mais là, j'essayais de définir une sorte de premier palier, c'est-à-dire l'étonnement à l'état pur devant une forme animale qui se manifeste à peine et avec laquelle, au fait, on n'a aucun autre contact que celui de cette apparition en plus lointaine, sans observation. Il n'y a pas d'observation possible, c'est juste comme un petit événement lumineux et sonore. Par contre, après, je me souviens que dans ce passage, enfin dans ce moment du livre, j'essaye de regarder d'autres fonctionnements de notre rapport. Quand justement, il y a contact, pas nécessairement avec le toucher, c'est assez rare malgré tout.
Oui, mais disons, sauf les animaux domestiques.
Oui, sauf
évidemment.
Les animaux domestiques. Mais disons, un contact visuel, un tant soit peu prolongé, ou l'écoute qu'on peut avoir la nuit de la bande-son animale. Et donc, il y a de multiples manifestations de cela. En fait, il y en a presque autant qu'il y a d'espèces, et à l'intérieur même de chaque espèce, c'est important à souligner, les animaux ne se comportent pas du tout tous de la même manière. On a toujours tendance à les ranger comme ça. Or, c'est assez compliqué. Et quand bien même, parfois, ils se comportent de la même manière, il y a quelque chose qui est très intéressant, qui est de l'ordre de la structure du collectif. Par exemple, les vols des tourneaux ne se comprennent qu'à partir du moment où l'on comprend qu'ils ne peuvent se tenir ainsi et faire ces extraordinaires danses dans le ciel. Il ne fonctionne qu'à partir du moment où il n'y a pas de chef, il n'y a pas de leader. Ce qui n'est pas le cas de tous les vols. Les vols d'oiseaux migrateurs sont souvent en formation, en triangle, etc. Mais chaque forme est consistante et chaque forme est signifiante. C'est ça. Et je veux dire que dans le titre même, forme, ce n'est pas seulement que gestalt est plus ample, disons, que forme. C'est la forme, c'est presque la notion aussi de forme de vie. Hein, c'est-à-dire qu'une forme, c'est aussi une forme de vie. Et là, moi, je serais peut-être un petit peu plus réservé sur la critique du darwinisme, etc. C'est-à-dire que je pense quand même qu'il y a une dimension par laquelle, qui est inévitable, que je pense que Portman ne récuse pas, mais qui ne l'intéresse pas parce qu'elle est déjà analysée, qui est quand même le fait qu'avec ce qu'on a appelé le Umwelt, le monde qui entoure l'animal, la forme animale est quand même une réponse à réponse et fabrication de cet entourement, il faudrait dire, plus qu'entourage. Et donc, il y aurait quelque chose qui relève, tiens, je vais citer Adorno, il parle de ça à propos de musique, mais c'est une notion qui est importante, c'est le structif. Il y a quelque chose quand même du structif qui est une réponse.
Qu'est-ce que ça veut dire, le structif ?
Le structif, ça veut dire c'est ce qui est structurant, ce qui serait à l'œuvre. Et dans le structif, ou le structurant, si vous préférez, mais je trouve structif plus vif, plus léger. Dans le structif, il y a quand même quelque chose de bon. Par exemple, la locomotion des mammifères avec leurs pattes, les nageoires chez les poissons, etc. Ce sont des réponses à des milieux, etc. Après, ce qui est extraordinaire, c'est la façon dont ça se déploie, la façon dont ça se déplie et la façon dont ça invente constamment des réponses. Et au sein des réponses, ce ne sont pas des réponses qui cochent des cases, bien entendu, ce sont des réponses qui sont des inventions. C'est ça qui est extraordinaire.
Voilà. Oui, des réponses. Mais est-ce que ce sont des réponses ? Ça, c'est là. Ou est-ce qu'il n'y a pas des inventions qui viennent, pourquoi, on ne sait pas, mais qui ont l'air de se faire d'un seul coup, par exemple, toujours pour revenir à cette chère girafe ou à d'autres animaux, le cheval, le serpent, il semble... Mais évidemment, je suis incompétent, j'essaie de comprendre. Difficile de supposer que ça puisse se faire par tâtonnement, parce que pour qu'une girafe puisse se déplacer, avoir ce rythme qu'elle a, tout doit tenir, hein, depuis le squelette en particulier, enfin les pattes, etc. Mais je suis d'accord avec cette idée de structif, de structuration, ou de dire qu'il ne s'agit pas simplement de la forme visible, mais que c'est un mode d'être, c'est une structuration de l'existence, que c'est un comportement. Je pense que Portman était tout à fait conscient de ça, mais évidemment il a privilégié dans ses travaux la dimension visuelle. Aussi encore une autre idée, mais en même temps un approfondissement. Par rapport à ce que vous avez dit ou par rapport à des choses que j'ai pu lire chez vous, vous insistez beaucoup sur la singularité. Hein. Donc, c'est un des chapitres avec le mot « vif », j'ai oublié, donc et sur le vif. Et on sent bien qu'il y a... une mise en garde contre le nom, contre la nomination, contre réduire une singularité ou une libre manifestation à une essence. Or, tout de même, et ça c'est une des choses que j'ai apprises chez Portman, les espèces existent.
Il y a la mésange, malgré elle virevolte, peut-être qu'elle improvise très souvent, n'empêche qu'on la reconnaît comme mésange. On reconnaît la... Donc il y a quand même quelque chose dans... Et pas... Et alors, il y a tout de même une tendance dans la pensée occidentale et en particulier scientifique, qui est le nominalisme, qui est de dire... et en particulier le nominalisme des espèces, finalement, les espèces ne seraient que des noms, des étiquettes que nous collons pour classifier, etc. Il est clair que chez Portman, la classification, la systématique est importante, mais la classification et la systématique s'appuient sur quelque chose qui existe ontologiquement et qui est le fait de l'animal lui-même. Donc l'existence des espèces et la remarquable aussi stabilité des espèces à l'encontre de tout de même de l'évolutionnisme qui nous dit tout est fluide et voilà. Donc ça me semble un point important à préciser.
Jean-Christophe Bailly.
Oui, mais là il y a quelque chose qui est formidable, sont des remarques de Jussieu. Et il est fait à propos des plantes, justement à la grande époque de la taxinomie, à la grande époque où on faisait des listes et des listes et des listes de noms, etc. Il dit qu'il y a quand même quelque chose d'un divorce entre la structure du langage et même la structure du langage écrit, qu'il compare à celle de la vigne d'ailleurs, avec des traits réguliers qui se succèdent géométriquement sur la page, et la liberté d'invention du monde végétal. Avec le monde animal, c'est encore plus grand. Mais le fait qu'il y ait des espèces, nul n'en disconviendra, bien entendu.
Alors, je voudrais maintenant revenir quand même à l'actualité et par conséquent à la souffrance. Jacques David, vous avez mis en cause, avec une certaine vigueur, le pathocentrisme actuel. Mais en même temps, et d'ailleurs, toute l'émission faisait place, je crois, à l'admiration pour le monde animal. Reste que la situation faite aux animaux aujourd'hui est extrêmement inquiétante et je pense qu'il faut en parler un peu. J'ai sous les yeux un article du Monde daté du jeudi 13 février. Quel avenir pour les Big Five icônes de la savane? Les Big Five, l'éléphant, le rhinocéros, le lion, le léopard et le buffle. Et les prédictions sont extrêmement pessimistes car le braconnage se répand en Afrique avec... il est servi par l'extraordinaire instabilité politique du continent, braconnage de survivance, trafic vers l'Asie, notamment de l'ivoire et des cornes du rhinocéros. Et donc, on voit beaucoup plus d'éléphants aujourd'hui qu'on ne voyait de girafes au 19e siècle parce qu'on les voit sans cesse à la télévision. Donc nous sommes habitués à ces animaux, ce qui est tout à fait... Il y a une sorte de familiarité visuelle. Et en même temps, on nous annonce leur disparition. Alors c'est une situation dont il faut parler quand même, Jean-Christophe Bailly.
Ah mais absolument. Et... il y a, là, et justement, disons, il y a une espèce de forme de compassion comme ça, qui est un petit peu, en fait, on pourrait appeler la compassion expéditive. Allez, oui, on n'insiste pas, mais c'est absolument dramatique ce qui se passe. Il n'y a pas que le braconnage, il y a aussi le développement urbain, en règle générale, qui a ces effets-là. La déforestation, qui a des effets beaucoup plus rapides encore que le braconnage, par exemple, pour les c'est pas l'Afrique, mais c'est dans l'insule Inde, les résultats de la déforestation, de transformation de milliers d'hectares de forêt en zones de culture de palmiers pour l'huile, etc. Ce sont des catastrophes. Et malheureusement, on atteint l'irréversible. Il y a des espèces qui sont pratiquement plus nombreuses en captivité dans les eaux qu'en nature aujourd'hui, et avec des seuils qui sont atteints. Et ce que l'on peut entrevoir à travers ça, moi j'en avais eu une sensation en lisant le livre de Svetlana Alexievitch sur Tchernobyl, avec les conversations des gens. Il y avait notamment les conversations avec de solides gaillards, pourtant, qui avaient fait la guerre d'Afghanistan et tout, qui disaient qu'ils étaient ils étaient payés pour achever le travail, d'une certaine manière, c'est-à-dire tuer les animaux irradiés qui étaient sur la zone. Et au bout d'un moment, ils racontent qu'eux-mêmes, ils ne peuvent plus le faire. Mais ce que ces gens ne peuvent pas faire, au fond, notre civilisation industrielle ou post-industrielle, comme on voudra l'appeler, peu m'importe, mais elle le fait constamment, elle le fait tous les jours, par des formes d'élevage aberrantes, etc. Alors même que l'élevage, moi je ne suis pas choqué par le fait qu'au bout du terme, on puisse manger un animal,
mais
les formes de l'élevage sont incroyablement diverses, et il y a des possibilités d'assurer, non pas ce qu'on appelle, ce terme que je déteste, le confort animal, il ne s'agit absolument pas de ça, mais le fait que durant le temps qu'il vit, et le plus longtemps possible, l'animal soit quand même épargné dans son existence, dans son apparence, c'est-à-dire aussi dans sa forme de vie.
Jacques Devitt, vous seriez d'accord avec ça ?
Je suis d'accord avec ça, sans être tout à fait au courant entièrement de ce qui se passe, mais ça m'inquiète beaucoup, comme tant de phénomènes contemporains. Et tout de même, mon insistance, ma critique de ce que j'ai appelé le pathocentrisme, au fond, c'est une critique... plutôt d'ordre épistémologique, c'est-à-dire ne pas retenir la pitié comme notre seule voie d'accès.
Aux animaux.
Aux animaux.
Oui, oui, bien sûr.
Et que la joie et que d'autres modalités sont possibles.
Et d'ailleurs,
c'est ça.
Et d'ailleurs, il semblerait que si ces autres modalités, si vous voulez, sont admises, eh bien, ce serait une ressource supplémentaire pour une véritable compassion à l'égard du sort des animaux. Mais avons-nous affaire, Jean-Christophe Bailly, à des processus inexorables de cette civilisation industrielle ou post-industrielle, ou de ce que Heidegger, parce que là il est évidemment très, très, très important, de la technique, ou y a-t-il un moyen, par une prise de conscience, d'arrêter les choses, ou de les ralentir, ou de changer presque de politique vis-à-vis du monde animal?
Le mot politique est tout à fait justifié, et là comme ailleurs, dans tous les autres domaines du politique, on peut évidemment être extrêmement pessimiste et ombrageux. Mais disons que ce qu'on peut remarquer quand même, c'est l'émission même en témoigne, c'est que depuis une quinzaine d'années, je dirais maintenant, en tout cas en France et je crois ailleurs aussi, la question animale a cessé d'être marginale. Elle revient constamment et on s'aperçoit qu'elle n'est pas à côté du politique ou qu'elle n'est pas un supplément au politique, qu'elle est directement présente et qu'elle ramifie dans tout le reste. C'est-à-dire, déjà, disons, on pourrait dire, pour les questions de l'altérité de ces autres êtres que nous, elle est là après et immédiate, et la question évidemment du sort que l'on réserve aux animaux et à travers eux, du sort que l'on réserve à la planète elle-même. Donc, évidemment que c'est un combat, il n'y a pas d'autre mot à mener, mais avec quelles armes par rapport à des gens qui évoquent des possibilités comme le gaz de schiste ou je ne sais pas quoi. C'est vrai qu'ils s'en foutent royalement de tout cela et qu'ils ne sont pas intéressés à l'existence d'autres qu'eux-mêmes.
Le gaz de schiste pourra avoir des...
Entre autres, comme la plupart de ces modes d'extraction, etc., tout ce qui est destructeur des biotopes, de toute façon, entraîne les animaux, dans le meilleur des cas, presque aujourd'hui, on pourrait dire, vers les eaux et les réserves, et dans le pire des cas, le plus constant, vers la mort. Mmh. Et ce que je voulais dire en citant le livre de Svetlana Alexievitch, c'est qu'à un moment, il est évoqué une promenade dans une forêt qui n'a plus d'odeur et qui n'a plus de bruit, une forêt vide. Et on peut aller vers cela, c'est-à-dire à vider, la nappe phréatique du sensible sera vidée. Et ce monde-là, je n'ai pas envie de le voir. Et ce n'est pas du pathos, là, c'est du réalisme.
Jacques Devitt. Oui, non, mais là-dessus, vous entendez bien. Mais nous, c'est un monde très compliqué, très complexe. Moi, ce que j'ai aussi remarqué, évidemment, et vous venez de le dire, font la conjoncture nous trouvons actuellement. Hein, donc, avec une grande importance, une conscience aiguë de la question animale. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un basculement? En tout cas, je l'ai constaté quand j'avais découvert Portman, que je faisais des exposés. Il était difficile de faire comprendre à ses auditeurs que peut-être l'animal avait une intériorité analogue à la nôtre, parce qu'on était inscrit dans ce qui était évident, ce qui allait de soi, c'était un dualisme marqué. Depuis quelques années, j'avais un peu abandonné ces questions. Je me suis retrouvé de nouveau dans des discussions, des débats. Mais ça a changé du tout au tout. Ce qui est devenu quasiment inaudible, c'est de dire, de faire entendre que peut-être l'homme serait une espèce à part, qu'il y aurait quelque chose comme un propre de l'homme. Et ce qui domine, ce n'est plus cette différence tranchée, etc., c'est l'identité, donc...
Oui, mise en cause de l'exception humaine.
Et mise en cause de l'exception humaine, pour citer un titre frappant, mais qui résume bien, au fond, cette nouvelle attitude fondamentale, ou ce que j'appelle cette nouvelle conjoncture, dans laquelle nous nous trouvons. Et moi, je trouve que, précisément un des intérêts d'auteurs comme Portman, c'est qu'ils nous permettent de dépasser des oscillations. Parce qu'on pourrait se dire, je m'étais posé la question, j'entends dire parfois cela, donc dans cette situation où on ne parle que des animaux, certains même jeunes chercheurs se disent, on se sent un peu étouffé. Alors on pourrait être tenté de retourner. Moi, j'appelle ça la tentation du retour de balancier, de retourner à un dualisme, à un anthropocentrisme. Je crois qu'un grand auteur comme Portman ou d'autres, précisément, tiennent ensemble les deux bouts, si vous voulez, de cet intérêt pour la spécificité humaine et tout de même de maintenir aussi la question de l'être de l'homme, quelque chose quand même comme une exception humaine qui se manifeste, qui est là par la parole. Nous sommes
aussi
des êtres parlants. Il y a Portman qui écrit La forme animale. Il y a Jean-Christophe Bailly qui écrit le parti pris des animaux. Donc peut-être que
mais je n'en tire aucune fierté quand je vois une hirondelle. À moi comme supérieur à elle.
En tout cas, il y a une situation dans l'univers qui est telle que l'homme existe et que
mais
ça c'est la question.
C'est la question. Peut-être aussi que dans le propre de l'homme, il faut inclure aussi justement ce que Jonas appelle le principe responsabilité. Peut-être aussi que la responsabilité vis-à-vis du monde et notamment des animaux fait partie du propre de l'homme. Mais ce serait le sujet d'une autre émission. Aujourd'hui, celle-ci se termine et je voudrais renvoyer les auditeurs à vos livres. Jean-Christophe Bailly, Le versant animal, que vous aviez publié chez Bayard, et celui tout récent, chez Christian Bourgois, qui s'intitule Le parti pris des animaux, avec une très belle illustration de Gilles Ayot, Mangouste. Le livre d'Adolphe Portman, La forme animale, que vous avez préfacé, Jacques De Witte, et publié aux éditions La Bibliothèque, avec de très beaux dessins, il faut le dire, de Sabine Boussani-Bohr, qui a collaboré avec Portman et à qui vous dédiez votre préface parce qu'elle est morte quelques mois avant la parution du livre. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et de Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Pierrick Monsigny. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannenet.